Bonsoir mes frères et sœurs, ouvrons donc le Saint Livre pour vivre mieux ce que nous venons de chanter, à savoir être des vainqueurs. Ça vous intéresse d'être des vainqueurs ou être plus que vainqueurs? Paul parle de plus que vainqueurs. Donc nous allons poursuivre l'introduction que nous avons faite dimanche, c'était une introduction, nous allons donc revenir sur ce verset où il nous est parlé de la prière et de la piété de Jésus, Hébreux chapitre 5, verset 7. Relisons ce verset. Je vous encourage à noter les versets que nous allons partager ce soir et à les utiliser pour votre culte personnel, à les méditer, à y revenir, à y réfléchir, à chercher le contexte. Voyez par exemple, ça c'est un réflexe tout à l'heure, quand Jonathan nous a lu ce texte dans les chroniques, par rapport à la façon dont le roi Josaphat a été exaucé. Regardez le contexte. Et c'est très intéressant lorsque vous étudiez un chapitre, de regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu un combat, mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour que des musiciens qui se sont mis à louer le Seigneur amènent la bénédiction? Parce qu'on pourrait l'utiliser comme une méthode. Mais regardez bien, vous voyez, c'est pour ça que je vous encourage à prendre les textes et à les méditer. Regardez donc ce qui nous est dit sur Jésus-Christ, notre modèle, notre sauveur, notre Père. Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Le texte logique voudrait qu'il soit écrit, et il a été exaucé à cause de sa prière ou de ses prières. Non, il est écrit que le Seigneur l'a exaucé, le Dieu Tout-Puissant l'a exaucé à cause de sa piété, dont nous pourrions mettre presque en titre de cette méditation, exaucé à cause de sa piété. Nous avons également vu ce texte dans 2 Timothée au chapitre 3, que le problème est aggravé parce qu'à la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. Mais comme je l'ai fait dimanche, je voudrais vous donner ces définitions que j'ai trouvées dans des dictionnaires bibliques sur ce qu'est la piété. Je l'ai dit dimanche, mais si quelqu'un n'était pas là dimanche, c'est peut-être bien que vous notiez pour que quand même nous réalisions qu'il n'y a pas que la prière. Notre souci, c'est que nous prions bien sûr et que la maison du Seigneur soit une prière avec toutes les formes de prière qui en découlent comme l'admiration, la louange, le silence, etc. Mais quand même, quand vous lisez, comme nous venons de le lire, « Exaucé à cause de sa piété », ça vaut vraiment la peine que nous réfléchissions à savoir ce qu'est la vraie piété, quand on sait d'autant plus que la fin des temps sera caractérisée par l'apparence de la piété dans les églises. C'est qu'est une affaire sévère, donc il faut que nous nous y appliquons. Donc j'ai relevé des commentaires sur la piété qui m'ont paru sains et bibliques, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la piété? C'est la preuve de notre amour pour Dieu, qui se manifeste par l'attachement au service, à la pratique des commandements, au devoir accompli dans l'obéissance à sa parole. La vraie piété est la preuve de la nouvelle naissance. Ça c'est vrai. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de piété parce qu'en vérité ils ne sont pas nés de nouveau. Alors ça aggrave bien sûr l'apostasie par l'apparence de la piété. La vraie piété est la preuve de la nouvelle naissance et d'une vie transformée qui devient agréable à Dieu. Certaines versions ont traduit le mot piété par le mot soumission, ce qui est excellent. La piété est la manifestation visible de notre amour pour Dieu. Je répète, la piété est la manifestation visible de notre amour pour Dieu, de notre foi dans sa parole et de notre obéissance joyeuse à ses commandements. L'obéissance forcée conduit au légalisme et ne n'amène pas un bon témoignage. Une obéissance joyeuse parce qu'on a compris que tous ces commandements sont intelligents. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, dans la prière, le Seigneur écoute la prière, mais il regarde aussi l'intercesseur, comme nous venons de le lire dans le témoignage de notre Seigneur Jésus. La piété rend notre Dieu plus attentif à la prière, ce fut le cas, comme on le vient de lire dans Hébreux au chapitre 5. Donc, il est important de prier, mais c'est vrai, hier je réfléchissais sur Acte 42, quand il est dit qu'il persévérait dans la prière, mais il n'est pas dit qu'il persévérait dans la prière. Il persévérait d'abord dans la communion fraternelle. Pourquoi ? Parce que quand on partage vraiment dans la communion fraternelle, comme on a eu l'occasion de le faire lors des dernières agapes, nous partageons des versets. Je vais partager avec Michael qui va me parler peut-être de la tristesse de sa maman par rapport à un deuil qu'elle a traversé, etc. Je vais discuter avec Julie qui va me parler peut-être d'une situation dans les églises en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que la communion fraternelle génère des sujets de prière. Donc il faut bien comprendre les choses. Nous sommes devant Dieu, nous ne voulons pas chanter « je veux être vainqueur », etc. Non, je sais que je dois m'exercer à la piété. C'est un commandement, exerce-toi à la piété. Nous devons vraiment veiller à la piété. Vous avez vu ce qui est dit, on va y aller quand même dans 2 Timothée, par rapport à tous ces comportements de chrétiens qui attristent le Saint-Esprit, donc qui empêchent l'approbation de Dieu dans nos églises, et qui font que, comme dans l'église de la Odyssée, on a réussi à mettre le Seigneur dehors. Quelle honte. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, il est parlé dans des temps difficiles et du comportement de certains chrétiens qui sont égoïstes, amis de l'argent, etc. Au verset 5, méditez peut-être avec votre conjoint, avec vos enfants. Tiens, on va prendre un dictionnaire et regarder qu'est-ce que c'est. Aimer le plaisir plus que Dieu, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Ça vaut la peine. En plus qu'aujourd'hui, avec Internet, vous avez la possibilité de consulter tous les dictionnaires, du Larousse au Robert, en passant par les dictionnaires bibliques, ce qui franchement facilite la connaissance. Donc il nous est dit, au verset 5, que les chrétiens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc ce soir, on va certainement voir un peu ce qui fait la force de la piété. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc c'est quand même important, parce qu'est-ce qu'il faut être ami avec les pécheurs ? Est-ce que Jésus était l'ami des pécheurs ? Oui, mais il était éloigné du péché. Vous voyez, il est dit qu'il était éloigné du péché, mais ailleurs, il est dit qu'il était l'ami des pécheurs. Il faut savoir conjuguer cette affaire de se tenir éloigné des péchés tout en aimant les pécheurs. Parce que quand même, vous le savez, 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Et si vous avez que des amis qui sont superficiels, des amis chrétiens qui sont charnels, des amis chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété, vous risquez de vous laisser entraîner par cette légèreté. Donc Dieu nous garde de cette superficialité si nous voulons être profonds. Ça vous intéresse d'avoir un témoignage de profondeur ? Ce que les gens ont besoin de voir, c'est pas d'entrer dans une église avec des milliers de gens ou autre chose. Les gens, ils ont besoin d'entrer dans une église où il y a de la piété, où les gens s'aiment les uns les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Il faut veiller à ne pas s'affectionner avec des chrétiens superficiels. Il faut les aider, mais faire attention de ne pas se laisser absorber par leur légèreté. Vous connaissez le premier verset du psaume 1er ? On va y aller parce que c'est important que nous comprenions les dégâts qui peuvent se produire dans le cœur d'un chrétien lorsqu'il n'est entouré que de chrétiens superficiels. Vous connaissez le psaume 1er. Il y a 3 étapes, ce qu'on appelle une gradation dans le comportement. Psaume 1er, verset 1er. En plus, le verset commence avec cette grâce. Heureux qui ? Eh bien, un homme, premièrement, qui ne marche pas. Vous voyez, c'est une marche. La vie est comparée à une marche. Marcher selon le conseil des méchants. Est-ce que des chrétiens peuvent être méchants ? Mais bien sûr, la Bible compare énormément le juste et le méchant. Le juste, c'est celui qui obéit, et le méchant, c'est le chrétien qui n'a pas de communion avec Dieu. Donc, il faut faire très attention aux chrétiens superficiels. Il faut les entourer, mais faites attention de ne pas accepter leur légèreté. Parce que, voilà, mais oui, mais tout le monde fait pareil. Mais tu peux faire pareil après tout. Notre modèle, c'est pas les gens qui font mal. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Première étape qui ne marche pas, le conseil des méchants. Ils ont des conseils, ils peuvent vous conseiller, croyez-moi. Deuxième étape qui ne s'arrête pas. Marcher, c'est une chose qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez, on a vite fait de s'arrêter. Et pire, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous en parlions l'autre jour en famille, de veiller. Je pense que c'est bien de rire. D'aimer rire. Vous aimez rire ? Voilà, c'est bien. Il faut aimer rire. Il y a un temps pour rire. Et je crois qu'on a besoin de rire. Mais il faut rire sainement et ne pas devenir des moqueurs. Vous ne verrez jamais Jésus dans la Bible, puisque c'est notre modèle, se moquer. Et nous ne nous moquons pas des gens. Nous ne nous moquons pas de quelqu'un parce qu'il est gros. Vous avez jamais vu des gens se moquer de personnes qui étaient grosses ou maigres ou... Et il faut faire attention. Nous voulons écouter Dieu. Jonathan nous a amené avec ses cantiques à une perception de cette piété. Eh bien, je ne veux pas marcher avec des chrétiens superficiels. Je ne veux pas m'arrêter avec des gens qui vivent dans le péché. Il faut s'en éloigner. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si le Seigneur nous le demande, c'est parce que nous sommes en danger et qu'il faut fuir les dangers. Et de pas surtout s'asseoir, c'est-à-dire trouver son plaisir, s'asseoir, voyez, c'est volontaire. J'ai besoin, je suis bien avec toi, donc je me plais avec les moqueurs. Si vous vous plaisez avec les moqueurs, si vous vous aimez vous moquer des gens, vous n'êtes pas en bon état spirituellement. Donc, ces choses-là, il faut savoir, il y a des choses auxquelles il faut savoir s'éloigner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Seigneur, est-ce que je dois inviter telle personne? Il faut veiller à ces choses. Il faut faire attention. Si la Bible nous demande de savoir nous éloigner de certaines personnes qui n'ont que l'apparence de la piété, il faut le faire. Il y a des chrétiens qui sont devenus des fils prodigues ou des rétrogrades parce qu'ils se sont affinés, ils ont pris des affinités avec plein de gens qui l'étaient. Il faut faire attention. On n'est pas plus fort que les autres. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. La vie avec Dieu, c'est une vie de repos. Tout à l'heure, nous avons prié pour que dans les églises de notre pays, eh bien, que tout le monde puisse inviter un ami, un collègue, un inconverti, un parent, etc. Et c'est vrai, comme je vous le disais, que nous sommes peinés lorsque nous entendons des chrétiens de plus en plus nous dire, vous savez, moi, dans mon église, je n'ose pas amener un collègue de boulot parce que il y a du désordre, il y a des gens qui crient, je peux plus amener quelqu'un, je suis désolé. Moi, franchement, je trouve que c'est dommage. C'est déjà difficile d'amener quelqu'un à l'église, quand en plus, si on l'amène, il est troublé par des gens qui ont un comportement misérable. Voyez, tout cela, ça se travaille. Travaillez à votre salut. Michael répétait tout à l'heure ce verset des psaumes, des proverbes sages gagnent des âmes. Hein, et je crois qu'on a tout intérêt à développer une véritable piété. En développant une véritable piété, Dieu exaucera nos prières. Rappelez-vous le thème, il a été exaucé à cause de sa piété. Donc ça vaut la peine de travailler ce sujet. La vie avec Dieu est une vie de repos. La vie avec Dieu est une vie de combat. Alors c'est quoi au fait le plus important? Le repos ou le combat? La Bible parle souvent du repos. Et de nous efforcer d'entrer dans le repos. Est-ce que la Bible parle souvent aussi du combat? Ben oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment combattre le bon combat de la foi si on n'est pas rentré dans le repos? Bien sûr que non. Et c'est ce que souvent il s'est passé dans les églises. Nous avons amené les églises à combattre le bon combat, à être des maisons de prière. Et c'est tout à l'honneur des pasteurs. Mais un soldat qui combattrait sans être rentré dans le repos de la foi, un soldat qui combattrait sans savoir s'équiper, etc., il va se faire avoir. Donc, il y a des comportements à découvrir. Écoutez, apprenez de moi, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Moi, vous aimeriez pas que Dieu vous dise, tu étais dans une église, ou tu as contribué dans l'église où tu étais, à ce qui est la paix et la grâce de Dieu dans l'église. Vous aimeriez que Dieu vous dise un jour, mais tu sais, dans l'église où tu étais un instrument de bénédiction, tu procurais la paix aux autres, tu as mené la tranquillité, tu as mené la grâce. Est-ce qu'on peut procurer la grâce? Est-ce que c'est écrit? Oui, tout ce que je vous dis, c'est biblique, bien entendu. Alors, il y a des efforts à faire par rapport à la foi, par rapport à la piété. Regardez dans 2 Pierre, au chapitre 2, il nous est parlé justement de cette grâce et de cette paix qui doivent être multipliées, que la puissance de Dieu nous a tout donné. Je ne veux pas me presser, je voudrais qu'on le fasse progressivement, que vous preniez surtout le temps de noter les textes qui vous permettront de comprendre comment on peut développer une véritable piété. Plus que la piété aura des incidences sur votre vie de prière. Dans 2 Pierre chapitre 1, voyez verset 2. On voit, c'est un principe biblique, grâce sur grâce, on voit que miséricorde sur miséricorde, on voit que Dieu multiplie. Verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc je ne sais pas si vous avez la grâce ce soir et la paix, je le crois, eh bien ça peut vous être multiplié. Ça vous convient? Oui. Par comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Pas par la connaissance de la doctrine, la connaissance de Jésus. Sa divine puissance nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Encore au moyen de la connaissance de Jésus. Verset 4, les conséquences sont extraordinaires. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Ça rejoint ce qu'on disait en début, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, donc à cause de tout ce qu'on vient de lire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça fait des chrétiens équilibrés. À la vertu, la connaissance. Ouais, la vertu, c'est quoi? C'est une disposition de cœur qui pousse à faire ce qui est bien. Mes frères et sœurs, quand vous lisez quelque chose, prenez le dictionnaire. Ça vous aide, ça nous aidera à développer cet équilibre. À la vertu, la connaissance. Encore la connaissance. À la connaissance de Jésus, bien sûr. La maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Et si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Donc, une véritable piété nous amènera non seulement à ce que nos prières soient exaucées, mais il va de soi que nos prières seront exaucées. Pourquoi ? Parce que nous ne serons pas oisifs ni stériles. Beaucoup de chrétiens sont fainéants, comme disait notre frère M. Fatah tout à l'heure dans sa prière. Il y a des chrétiens qui sont fainéants et qui s'appauvrissent. La véritable piété fera que nous ne serons pas oisifs. Dieu regarde au cœur. Vous le savez. Ce soir, Dieu voit ton cœur. Tu n'as peut-être pas fait les progrès que nous aurions aimé que tu fasses. Pourquoi ? Mais Dieu sait aussi dans ce que tu as traversé. Alors faisons attention de ne pas nous juger les uns les autres, parce que Dieu regarde au cœur. C'est une loi du royaume. Nous ne sommes pas capables, nous, de discerner ce qu'une personne traverse. Vous vous rappelez le grand prophète Samuel, vieux, âgé, c'est pas du tout péjoratif, c'est au contraire, il avait une grande connaissance, qui a été envoyé par Dieu dans la maison d'Isaïe pour choisir celui que Dieu avait choisi pour remplacer Saül, qui avait été rejeté. Eh bien, quand le grand vieux prophète plein d'expérience a vu, comment il s'appelle, Eliab, il a dit c'est celui-là, certainement c'est celui-là. Parce qu'il était grand, il avait l'apparence d'un gars qui pourrait faire l'affaire. Saül était grand, donc il fallait un grand gars pour le remplacer. Et Dieu a dit à Samuel, l'homme considère ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Et nous devons faire attention dans cette affaire de piété, de pas, lorsque nous faisons des progrès, de pas tomber sous le jugement de diable qui nous facilite la tâche pour juger les gens. Moi, j'y suis tombé quelques fois, je peux vous le dire. Et je ne suis pas fier. Hein. Donc Dieu regarde au cœur. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Et celui qui craint ma parole. Donc, vous voyez, ça rejoint cette affaire de Dieu qui a exaucé Jésus à cause de sa piété. Dieu porte ses regards. Tiens donc sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque d'un côté, il a dit mon esprit doit se réjouir en Dieu mon sauveur. Et de l'autre côté, mon esprit, Dieu porte son regard sur celui qui souffre. On pourrait dire, mais il faudrait savoir. Eh bien oui, parce que les gens qui souffrent et qui ont l'esprit abattu, les vrais chrétiens qui souffrent et qui ont l'esprit abattu, c'est parce qu'ils souffrent quand ils ont commis un péché. Oui. Ça vous arrive de commettre un péché? Ça vous fait rire ou ça vous fait souffrir? Ça vous fait rire ou ça vous abat? Et ça vous abat. Vous êtes malheureux. Vous avez des mauvaises pensées. Vous vouliez passer toute la journée d'équerre et puis pas, vous avez une mauvaise pensée, vous avez une mauvaise idée, etc. Et vous avez l'esprit abattu. Mais vrai, et vous vous repentez. Parce que la vraie piété, elle est liée à ça. Je t'aime Seigneur, mais je souffre, je suis abattu parce que j'ai pas été comme je voudrais. Et quand cette souffrance et cet esprit abattu sont vrais devant Dieu, ça m'amène à la repentance. C'est pour ça que Dieu porte ses regards sur celui qui souffre. C'est important. Et sur celui qui craint ma parole. Donc si vous dites oui, je suis malheureux parce que, et en même temps je me réjouis, je peux chanter de tout mon cœur Dieu est grand, et en même temps franchement c'est paradoxal, j'ai l'esprit abattu. Ça vous arrive pas ça de conjuguer ces deux trucs? Vous êtes super heureux parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie et vous êtes super abattu parce que vous avez commis un péché. Ça vous arrive? C'est normal. C'est normal. Ne jouons pas les comédiens. Les hypocrites du Nouveau Testament ont été taxés sévèrement par Jésus-Christ parce qu'ils jouaient la comédie par rapport aux autres. Donc, sur celui qui crée ma parole. Jésus dit pas, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui prie longtemps, sur celui qui prie plus que les autres. Combien vous priez, monsieur Dupont? 2 heures par jour? Ah, moi je prie 2h30. Et que c'est ridicule. Vous allez me dire, oui, ton image, elle est juste, mais ne, sincèrement, combien de fois nous pouvons nous faire piéger en nous comparant aux autres? Moi, j'aime ce verset dans Actes, ne le cherchez pas, Actes 10, 35. C'est un verset que j'aime beaucoup. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'est celui qui y vit ce que Dieu dit. Il le vit. Il le vit peut-être difficilement, mais il le vit. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, il y a des conseils. On reviendra, je ne sais pas comment le Seigneur nous conduira par rapport à cette étude. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, 1 Timothée 4, oui. 1 Timothée 4, verset 8, il nous est dit quelque chose par rapport à la piété. Vous avez vu que certains efforts où nous sommes soucieux d'être des chrétiens équilibrés, ça, c'est important pour vous d'être un chrétien équilibré? Soyons honnêtes, vous ne trouvez pas que parfois dans nos églises, nous avons vu des chrétiens qui étaient déséquilibrés? Quel témoignage! Je l'ai déjà dit, si je vous prêchais pendant un an, tous les mardis soirs, sur les dons spirituels, et que ce soit bien sûr la vérité, vous diriez, c'est bien, mais ce n'est pas équilibré. Il n'y a pas que les dons spirituels. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le voir dans l'enseignement, mais également dans le comportement. Et un chrétien, vous avez vu, le premier texte nous prouve que Dieu nous a tout donné pour que nous ayons une vraie piété, mais que cette piété va se manifester si nous faisons certains efforts, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre, pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance la patience la piété, etc. Et si nous sommes intelligents, nous développerons toutes ces vertus et nous deviendrons des chrétiens équilibrés. Et ça, c'est le témoignage de l'Église, que les gens de l'extérieur, dans ces temps super compliqués, voient des chrétiens équilibrés. Donc, un autre texte qui dit à peu près la même chose, mais là c'est par rapport aux promesses, c'est pas par rapport aux témoignages. 1 Timothée 4, verset 8, « Exerce-toi à la piété. » Pourquoi ? Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, elle est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. N'oubliez pas que Timothée est déjà pasteur, c'est déjà un serviteur de Dieu. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit déjà pasteur, Dieu, Paul lui adresse ce conseil. Il compare la piété à l'exercice corporel. L'exercice corporel est utile et je pense que pour réussir dans le sport, il est absolument utile de faire de l'exercice. Et même dans la vie de tous les jours, il est utile de faire de l'exercice. Ça nous amène à une déduction facile. Dans la vie spirituelle, il faut aussi faire de l'exercice spirituel. Il y a des exercices à faire de bon cœur. Je lis ma Bible pour connaître Dieu. Oui ou non? J'ai besoin... Vous avez vu dans le texte? 4 fois la connaissance de Jésus, la connaissance de Jésus, la connaissance. Ce matin, j'ai appris quelque chose. Vous rendez compte, ça fait 37 ans, 38 bientôt que je lis la Bible, oui. J'ai lu la Genèse, je ne sais pas combien de fois, je me suis rendu compte ce matin que Abraham a eu des concubines. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un exercice. Je m'applique, je lis, et puis c'est normal. C'est pas que je l'ai pas vu, c'est qu'il y a tellement et tellement et tellement de choses à découvrir dans la Bible que la révélation elle est automatiquement progressive. Mais je lis la Bible pour connaître les choses, pour comprendre les choses. Lire la Bible, prier, comme on l'a vu dimanche, je reviens pas sur le sujet. Participer aux réunions de l'Assemblée comme nous le faisons ce soir, c'est important. Dire tiens mais c'est vrai cette étude sur la piété, Monsieur Go il l'aborde, mais moi je vais l'approfondir. Il aborde certains sujets, mais moi je vais revenir sur tous les textes et je vais m'appliquer, je vais comprendre ce que Dieu veut que je comprenne pour être un homme qui aura une véritable piété. Comment servir Dieu? Comment comprendre les choses? Vous vous souvenez ce que Jésus a dit, par exemple, lorsqu'il a parlé du serment inutile? Vous savez que Dieu est le vigneron et que Dieu, oui, est le vigneron et que lui, c'est le cep. Et que le vigneron, il a un outil dans la main. C'est pas écrit, mais enfin, ça, on peut le déduire. Et qu'est-ce qu'il fait, le vigneron, avec son sécateur? il coupe les branches inutiles. Parce que la suite, ma conclusion, c'est ça, c'est que la piété, elle doit être utile. Si la piété n'est pas utile, c'est qu'on n'a pas de piété. C'est sûr et certain. Donc Jésus, j'entame cette troisième partie en m'expliquant bien que si je suis un chrétien inutile, le Seigneur risque de m'émonder. Non, il va m'émonder si je suis utile, parce que les branches, il les émonde quand même. De toute façon, tout le monde est émondé quand même. Mais pas dans le même sens. Vous savez ce que fait un sarment inutile ? Non, il ne produit pas de fruits, mais qu'est-ce qu'il fait en vérité à la souche ? Il l'affaiblit. Pourquoi ? Parce qu'il pompe la sève pour rien. Vous avez vu, il y a des branches, dans le jardin, des fois, il y a des branches de 3-4 mètres qui ne servent à rien. Donc, pourquoi Jésus émonde ? Parce que ce qui est inutile, ça en vérité, ça fatigue. Ça fatigue la souche. Mais la piété, elle est utile à tout. Je ne sais pas si nous nous rendons compte, mes frères et sœurs. Je voudrais que vous méditiez ce que j'ai partagé avec vous ce soir pour votre vie personnelle, parce que ça, c'est une exhortation. Et je pense qu'il faudrait que nous y revenions individuellement. Mais la vraie piété, on vient de le lire, elle est utile à tout. Je suis là, dans le corps de Christ, je fais partie de l'œuvre de Dieu, il faut que je sois utile. Est-ce que je suis un chrétien utile ? Vous avez vu ce que Paul écrit, attends, Timothée, Tite, Philémon, regardez dans Philémon. Dans l'épître à Philémon, Paul écrit donc à un collègue, et il lui parle d'un frère. J'aime ce texte, pour les vieux, il le dit, je suis un vieillard, et puis il va lui parler d'un homme, d'un serviteur qu'il a, qui s'appelle Onésime. Regardez bien, Philémon chapitre le premier ou le dernier, comme vous voulez. Verset 10. Regardez bien, c'est très important, parce que ça nous encourage, si nous sommes inutiles jusqu'à aujourd'hui, eh bien on peut changer. Amen. Ben oui, c'est important, parce qu'on n'est pas tous peut-être comme il faudrait. Philémon chapitre 1, verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime. Regardez bien, verset 11. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Nous voyons par la suite l'affection profonde que Paul a pour ce garçon. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Vous lirez la suite et vous verrez comment un homme de Dieu, un chrétien, peut s'attacher à un autre frère. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a dans le comportement de ce frère une véritable piété, un homme qui était inutile, vous voyez, Dieu le permet qu'on le sache, c'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir, oui, je ne suis pas très utile, je suis inutile, mais Seigneur, je vais développer une véritable piété qui fera que je vais terminer ma course en étant utile. Un chrétien a une véritable piété. S'il n'a pas la véritable piété, il n'est pas utile. Si vous êtes inutile, eh bien, demandez de l'aide à Dieu. Ce n'est pas possible qu'il ne vous aide pas. Un chrétien, il est utile. Il est utile dans les tâches matérielles. L'autre jour, il y a un frère qui est arrivé, là, il me dit « Ah, monsieur Gou, il y a plein de poubelles dans le jardin. Quand est-ce qu'elles passent ? Quand est-ce que je dois les sortir ?» C'est ça, être utile. Je vois des besoins, je réponds aux besoins. Un chrétien, il se rend utile. La piété, elle est utile à tout. Et ça, c'est une bénédiction quand quelqu'un devient utile. Je suis utile dans les tâches matérielles. Tiens, Dieu m'a donné un véhicule. Quelle grâce d'avoir une voiture. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter un véhicule. Eh bien, ce véhicule, il sera utile pour l'Église. J'irai chercher Madame un tel là-bas qui habite à 10 kilomètres. Elle ne peut pas venir à l'Église, la pauvre. La piété, elle doit être utile. Nous sommes dans le corps de Christ. Nous nous rendons utiles aux tâches matérielles, aux choses les plus simples. Ne demandez pas à Dieu une super grande onction si vous n'êtes pas capable de faire de toutes petites choses matérielles dans l'Église. Après, ça va dans les visites, on ne va pas parler des services, mais tous les services. Une vraie piété. Regardez dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. C'est intéressant quand vous connaissez bien la Bible, ce texte qu'on va lire. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Paul organise un petit peu ses missions, son travail dans les églises. Regardez bien. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Luc seul est avec moi. Il avait dispatché des frères et des pasteurs dans d'autres églises. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Est-ce que vous savez le problème qu'il y a eu entre Marc et Paul dans le livre des Actes? Si vous, faites-le, lisez Actes chapitre 15, lisez-le, méditez-le et regardez le dissentiment qu'il y a eu, la difficulté qu'il y a eu entre ces deux pasteurs. Il y a eu une incompréhension et Paul n'a pas voulu que Marc vienne avec eux parce que pour lui, il avait manqué de courage. Enfin, vous verrez le contexte. Mais là, vous voyez comment les gens changent. Prends Marc parce qu'il m'est utile. Donc, Paul a changé parce qu'il n'y avait pas que Marc peut-être qui avait tort, on ne sait pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on a une vraie piété, on change et on finit par travailler ensemble. C'est pas beau ça quand deux frères sont ennemis et qu'ils finissent par travailler ensemble parce que chacun a développé une véritable communion avec Dieu. C'est ça la piété, elle est utile. Marc avait une véritable piété, même s'il était en désaccord avec Paul, au point qu'ils se sont séparés. Mais comme chacun a fait des progrès, quelques années plus tard, Paul a l'honnêteté, le Saint-Esprit l'a voulu, de savoir, amène-moi surtout Marc, il m'est utile pour que j'exerce mon ministère. Moi je trouve que c'est beau les progrès que l'on peut faire. Les gens pieux, ce ne sont pas des gens qui font des longues prières. Jésus a dénoncé les pharisiens pour appeler. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ne soyez pas comme ces païens, ne soyez pas comme ces publicains qui font de longues prières au coin des rues. Ils s'imaginent, etc., etc. La piété, ce n'est pas lié aux longues prières. Vous pouvez faire de longues prières. Vous pouvez avoir besoin de faire de longues prières. Moi, je ne voudrais pas que les pasteurs qui m'écoutent ou des chrétiens s'imaginent qu'il ne faut plus prier. Moi, des fois, j'ai besoin de faire de longues prières. Mais ça, c'est entre moi et Dieu. Il n'y a pas besoin que je fasse des longues prières dans l'Église. Je crois que nous devons savoir chacun ce que nous avons besoin de faire pour améliorer notre communion avec Dieu. Les gens pieux, dans le contexte de tout ce que je viens de vous dire, les gens pieux, ce sont des gens utiles qui répondent à des besoins à satisfaire. Les gens pieux, ils cherchent à se rendre utiles. Amène-moi Marc. Onésime, il a été inutile. Franchement, quand je vois l'affection que Paul porte à ce frère, il s'est passé quelque chose. Ce soir, on peut dire, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Je fais rien, je suis là tout le temps en tant qu'observateur, j'aime la parole, mais je ne me rends pas utile. Montre-moi, Seigneur. Et vous verrez, le Seigneur y mettra sur votre chemin des choses qui vont se présenter à faire et qui feront que ça vous épanouira, ça vous gavera pas, comme les gens disent, moi, ça me gave de faire un truc, ça me saoule. On entend de plus en plus ces qualificatifs extraordinaires. Dans l'église du Seigneur, on ne devrait pas l'entendre ça. Dans l'église du Seigneur, si quelque chose me saoule, si quelque chose ne me va pas, Seigneur, montre-moi si tu ne veux pas que je fasse autre chose. Soyons honnêtes. Je m'occupe de la bibliothèque. Ça ne me convient plus. Je n'ai pas envie de savoir quels sont les livres qu'il me faut conseiller. Ce n'est pas un truc que je sens. Seigneur, montre-moi si tu veux que je fasse autre chose. Mais la piété, elle est utile. Nous sommes dans des églises où les gens rêvent, les gens ils fabulent. Non, la piété c'est un truc pratique. Les gens pieux, écoutez avec le peu que vous avez lu avec moi, c'est évident, ils se rendent utiles. Nous sommes dans des temps compliqués, mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps super difficiles. Mais nous devons absolument travailler à avoir une véritable piété. Parce que ceux qui ont l'apparence de la piété, j'ai bien peur qu'ils ne soient pas pris lorsque Jésus va revenir les chercher. Par contre, qu'est-ce qu'il est dit? On l'a lu dans Timothée, mais ils en renient ce qui fait la force. Et je termine parce que je vois que le retour, nous y reviendrons pour que ce soit plus compliqué, plus complet, pardon. Mais verset 5 de 2 Timothée 3, c'est ce qui nous intéresse. Ça vaudra peut-être la peine de le peaufiner un peu mieux, ça, parce que là, j'ai peur de le bâcler. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Donc, ils ont l'apparence de la piété, des chrétiens, mais ils en renient ce qui fait la force. Donc, c'est important que nous nous préoccupions de ce qui fait la force de la piété. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque certains chrétiens n'en ont que l'apparence, donc moi, je ne veux pas avoir l'apparence de la piété. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui fait la force de la piété. On l'a amorcé tout à l'heure lorsqu'on a vu que Dieu porte ses regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Parce qu'il est malheureux, parce qu'il a commis des péchés, il s'est loupé, il est malheureux. Ça plaît à Dieu, parce qu'au moins le gars, il dit pas, oh, c'est pas grave, il dit, Seigneur, pardon, pardon. Donc, ce qui fait la force de la piété, c'est une vraie repentance. La repentance, c'est pas que pour les pécheurs qui découvrent la croix, la repentance, c'est aussi pour les chrétiens qui se sont loupés. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui fait la force, un des éléments de la piété, ce qui fait la force de la piété, c'est une vraie repentance. Seigneur, je te demande pardon. C'est vraiment sincère, ça sort de mon cœur. Ça peut se passer toutes les semaines. J'ai envie de dire presque tous les soirs, je l'ajoute, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est vrai. Et ça fait la force de la piété. La sainteté, vous le marquez, vous y réfléchirez. La sainteté, inévitablement, elle fait la force de la piété. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit, automatiquement, développe une véritable piété et donne la force à la piété, la communion avec Dieu. Oui, j'ai pensé à ces quatre vertus. Mais franchement, ça vaut la peine que nous demandions de l'aide à Dieu, parce qu'en développant ces quatre vertus, nous développerons cette piété qui fera que nos prières seront exaucées. Parce que je pense quand même que ça serait dommage que nous nous concentrions sur la prière comme étant presque une méthode. Ce n'est pas une méthode, c'est un moyen de développer une communion avec Dieu, d'avoir l'amour de Dieu et de combattre le bon combat. Et la piété, il ne faut pas qu'elle soit superficielle. Je termine quand même avec ce verset que j'avais à cœur de partager avec vous. C'est dans le prophète Osée. Dans le prophète Osée, le peuple de Dieu a fait semblant d'être en communion avec Dieu. Ils offraient des sacrifices, ça c'est sûr. Pour offrir des sacrifices, ça posait pas de problème d'offrir un mouton, d'offrir une paire de tourterelles si j'étais pauvre, ou d'offrir un taureau si j'avais un petit peu plus de moyens. Ça posait pas de problème. Mais regardez le reproche que Dieu fait à son peuple par rapport à la piété. C'est important de voir comment Dieu parle de la piété dans l'Ancien Testament. Osée chapitre 6, verset 4. Ça devient compliqué parce qu'on voit que le Seigneur a essayé à plusieurs reprises par des épreuves. Est-ce que Dieu par des épreuves peut nous interpeller? Il va utiliser une épreuve, ça peut être dans la maladie, ça peut être dans un problème psychique, etc. Et on voit bien que c'est vrai, ce que je vous dis est vrai par rapport à la question que Dieu pose. Osée chapitre 6, verset 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Ça vous avez compris ce que ça veut dire. Mais quelle épreuve va-t-il falloir? Quelle nouvelle épreuve va-t-il falloir que je permette pour que vous changiez? Et c'est dit avec amour. Moi, je ne suis pas du tout sûr que j'utilise l'intonation qu'il faut. Je manque certainement d'amour et de miséricorde. Mais il n'empêche que ce sont des questions que Dieu pose et qui vaudraient la peine que nous y réfléchissions si nous pouvions nous éviter certaines épreuves. Que te ferai-je? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Donc Dieu utilise, vous savez, le brouillard qu'il y a l'été. Vous savez, le matin, vous savez, vous prenez l'autoroute, vous avez un brouillard incroyable, il fait nuit, il fait presque jour, il y a un brouillard pas possible, le soleil se lève, 5 minutes après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dès qu'il y a une petite épreuve, dès qu'il y a un petit dard de soleil qui tape notre piété, eh bien elle disparaît. C'est pas glorieux. Mais quand même, c'est l'image que le Seigneur utilisait à l'époque pour parler à son peuple. Dès qu'il y a une petite contrariété, paf, la piété disparaît. On va peut-être lire le verset 6. Qui est la réponse. Oui, parce qu'il faut une réponse quand même. J'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. À l'époque, ils offraient des holocaustes, ils offraient des sacrifices, ils le faisaient pour Dieu, mais ils étaient éloignés de Dieu. Et la piété, c'est ça, la fausse piété. Vous voyez, donc l'apparence de la piété n'existe pas que dans la fin des temps, elle existait du temps des Hébreux. La vraie piété, comme on l'a lu dans ces définitions que je vous ai citées au début, c'est un attachement profond. Je commence par le début. Et le début, on le verra certainement la semaine prochaine parce que ça vaut la peine. La piété, elle commence dans la famille. Vous le verrez. Vous le méditerez en Timothée 5:4. Qu'on apprenne à exercer la piété dans la famille. Qu'on apprenne. C'est Paul qui parle. Et je peux vous dire que, hélas, je n'ai pas terminé mon exhortation, ça ne fait rien. Mais on priera parce qu'il faut apprendre à exercer la piété dans la famille. Et Paul va très loin puisqu'il termine en disant que celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc il faut savoir s'éloigner des chrétiens superficiels Et la conclusion, ça serait, en même temps, savoir exercer une vraie piété dans la famille. Et nous verrons la semaine prochaine, si le Seigneur me met toujours ce sujet à cœur, le nombre de fois où Dieu dit « j'ai appris ». Ou Paul dit, pardon. Où Paul dit « j'ai appris ». L'homme qui recevait des révélations en veux-tu en voilà, qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, je vous le répète, a dit en toute humilité, j'ai appris. Donc il a appris par des collègues, quand il allait dans des synagogues, dans des églises, dans les temples, il apprenait des pasteurs certaines choses, et il le cite. Et mes frères et sœurs, ça vaut la peine, comme on le fait ce soir, de dire, mais Seigneur, apprends-moi. Parce que justement, il a appris que la piété est une source de gain. Je ne sais pas si vous avez envie de gagner, mais la piété est une source de gain. Alors demandons de l'aide au Seigneur pour être des chrétiens équilibrés. Savoir nous séparer des pécheurs, savoir aimer les pécheurs. Savoir nous éloigner des gens superficiels, des chrétiens superficiels, et de la même manière, savoir s'attacher vraiment à notre famille. Vous voyez, toute la Bible est un livre qui nous parle d'équilibre. C'est impossible de le voir autrement. En tous les cas, mes frères et sœurs, je suis sûr d'une chose, que si Paul a appris, nous aussi nous pouvons apprendre. Et si nous le voulons, nous apprendrons et nous développerons une belle piété. Et quand on passera devant Dieu, peut-être que Dieu nous dira la même chose que Paul a dit à Philémon ou à Onésime, des gens qui étaient inutiles et qui valaient rien ou pas grand-chose, et bien qui sont devenus des vases d'or pour le corps de Christ. Vous avez envie de devenir, hein, on veut tous faire des progrès. On demande de l'aide.